L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec la chronique de David Castello-Lopez. Chaque jour, les origines d'une invention de notre, qui est devenue, qui fait partie de notre quotidien, aujourd'hui les antidépresseurs.
Oui, il y a une petite parabole qu'on m'a racontée il y a quelques années qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire d'une séance de psychothérapie entre un monsieur dépressif d'un côté et un psychanalyste de l'autre. Le monsieur dépressif, il dit au psychanalyste « Docteur, je ne sais plus quoi faire, je suis ultra déprimé, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, c'est horrible. » Et le psychanalyste, hyper pro, il lui dit « Écoutez, vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez vous changer les idées en allant voir un spectacle drôle. Tenez, en ce moment, il y a un super comique qui tourne en ville qui s'appelle Pagliacci, vous devriez prendre des billets pour aller le voir. » Et le monsieur dépressif, il éclate en sanglots et puis il dit « Mais docteur, je suis Pagliacci. » Et ça m'a marqué parce que je suis un tout petit peu reconnu là-dedans dans cette idée que faire des blagues de façon rémunérée, ça ne protégeait pas le moins du monde contre le fait d'être super déprimé. Et que quand on est déprimé, bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, quand vous cassez une jambe, vous allez à l'hôpital, on sait exactement comment réparer votre jambe. Vous avez une infection urinaire, on sait exactement comment vous soigner. Vous avez la peste, on peut vous enlever la peste. Mais pour les problèmes mentaux, c'est la merde. Vous avez des écoles de psychothérapie, les lacaniens, les freudiens, les thérapies comportementales, l'hypnose, les partisans de la gestalt théorie. Tous ces gens, souvent, se méprisent mutuellement, se traitent mutuellement de charlatans, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de consensus. Et vous, vous êtes là et vous dites, mais qui a raison? Je ne sais pas, la gestalt, les freudiens, j'en sais rien. Et tout ça, des fois, ça me donne un peu l'impression que pour les troubles mentaux, on en est un petit peu encore à l'époque de Molière. Vous voyez, on fait des suppositions qui paraissent un peu ésotériques, mais en fait, ça reste mystérieux. Comme les maladies infectieuses étaient mystérieuses du temps du médecin malgré lui. Mais bon, dans cet océan d'incertitude, il y a un aspect qui semble un petit peu moins incertain, ce sont les médicaments pour ne pas être déprimé, qu'on appelle donc les antidépresseurs. Moi, j'en ai jamais pris, mais il y a beaucoup de témoignages de gens dépressifs qui disent que les antidépresseurs leur ont sauvé la vie. Et comme il y a 300 millions de personnes dépressives dans le monde, c'est quand même agréable de savoir que chaque année, les antidépresseurs, ça permet à certaines d'entre elles d'attendre un peu avant de se suicider. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a inventé les antidépresseurs? Alors, au début des années 50, il y a deux médecins à l'hôpital de Seaview à New York qui ont testé une nouvelle molécule pour traiter la tuberculose. Une molécule qui s'appelle l'iproniazide. L'iproniazide, si vous connaissez le Vidal par cœur comme moi, vous savez que c'est un inhibiteur de la monoamine oxydase non spécifique, hein, c'est la base. Et les médecins de l'hôpital de Seaview, ils en ont donc donné aux tuberculeux. Et au bout de quelques semaines, ils ont remarqué un truc chelou, c'est que les gens auxquels ils avaient donné l'iproniazide, ils avaient l'air vachement plus joyeux qu'avant. Ils bavardaient, ils avaient de l'appétit, certains même dansaient dans les couloirs. Et de fil en aiguille, sur une période de quelques années, on a fini par comprendre pourquoi. C'est que l'iproniazide avait la faculté d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui a le pouvoir de transmettre des messages de neurone à neurone. Et c'est cette découverte qui a mené, petit à petit, à l'invention des antidépresseurs. Le premier s'appelait le Tofranil, en 1957. Puis il y en a plusieurs qui sont arrivés en cascade dans les années 70. La zimélidine, toujours très difficile à prononcer les noms d'antidépresseurs, le Prozac, le Paxil, le Zoloft. Et puis on s'est rendu compte, malheureusement, que la dépression, c'était plus compliqué que juste une question de sérotonine. Bon, déjà, on a vu que les antidépresseurs de la famille du Prozac, ils pouvaient avoir des effets secondaires vraiment nuls. Il y a des gens qui se plaignaient qu'ils avaient plus d'appétit, plus envie de faire l'amour, qui souffraient d'insomnie et de maux de tête. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'être un peu moins déprimé si on n'a plus envie de rien? Vous voyez, ça sert à rien. Ensuite, il y a des études qui ont commencé à montrer qu'il était probable qu'une bonne partie de l'effet de ces antidépresseurs soit en fait un effet placebo. Et enfin, il y a toujours 10 à 15% des dépressifs qui résistent à tous les traitements imaginables, y compris tous les antidépresseurs. Et donc, c'était un petit peu décourageant. Et puis, au début des années 2000, il y a eu une nouvelle avancée. Est-ce que vous savez quelle est la substance qui aujourd'hui est considérée comme la plus prometteuse en matière de lutte contre la dépression, en particulier contre la dépression sévère?
Le vin.
C'est une pression sévère. Le chocolat, c'est bien quand on est un petit peu triste, ça donne un petit machin. Si vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, ça va pas vous sauver.
Le sexe?
Non plus. C'est la kétamine.
Ah oui.
La kétamine qui au départ
était... mais c'est une drogue.
C'est un anesthésiant pour chevaux au départ, qui est devenu une drogue pour gens qui écoutent de la musique trop fort.
Oui.
Et puis la kétamine, on a remarqué que ça avait le pouvoir, à petite dose, de redonner quelques grammes de joie de vivre à des gens dépressifs sur lesquels tous les autres traitements avaient échoué. Alors, attention, les recherches sur la question ne sont pas du tout finies. C'est encore expérimental. Donc, vous ne précipitez pas chez votre dealer pour vous, hein, vous shooter
mais
à la cadavre tout de suite.
On va très bien avec Stéphane, contrairement à ce que vous semblez penser.
Nous, on n'a pas besoin.
J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas dans ce studio.
Ah non, s'ils écoutent historiquement vôtre, ça leur fait l'effet de la kétamine.
C'est la même chose. Mais en tout cas, c'est quand même super prometteur. Et peut-être que bientôt, donc, on sortira de cette sorte de Moyen-Âge médical dans lequel j'ai l'impression que la recherche sur la tristesse se trouve encore.
Il y a eu un élément autobiographique dans cette chronique qui est quand même étonnant. C'est cette petite phrase qui est passée inaperçue, c'est « Je n'ai jamais pris d'antidépresseur. Vous n'avez jamais pris un petit Lexo. »
Mais le Lexomil n'est pas un antidépresseur. C'est un anxiolytique.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil.
C'est quand vous évitez d'avoir des palpitations.
Oui, voilà, c'est jamais... Vous êtes, là, angoissé, vous êtes stressé, vous prenez un petit truc, c'est, je prenais une fois. L'antidépresseur, c'est des cures qui durent longtemps.
Ah oui, moi non plus, alors j'en ai pas pris. Mais c'est parce qu'on est gay, rieux. C'est pour ça.